VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 24 février 2020. En direct de Washington, Idrissa Sidoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Togo, le président sortant, Fornia Singbe, reconduit pour un quatrième mandat dès le premier tour de l'élection de samedi. L'opposition conteste.
Au Cameroun, le gouvernement dit entendre rester maître de son destin après que le président français Emmanuel Macron a promis de faire pression sur son homologue Paul Biya.
Au Mali, au moins 4 soldats ont été tués et 8 autres blessés dans l'attaque de djihadistes présumés contre un camp militaire près de Tombouctou, dans le nord du pays.
Le bilan du coronavirus a atteint ce lundi 2592 morts en Chine continentale, après l'annonce de 150 décès supplémentaires, selon les autorités sanitaires.
Al-Qaïda dans la péninsule arabique a confirmé hier la mort de son chef, Qassem al-Rimi, 2 semaines après l'annonce de cette nouvelle par Washington.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Togo, le président sortant, Fornia Singbe, a été réélu à un quatrième mandat dès le premier tour de l'élection du 22 février. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Les précisions de notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Ungbo.
Le coup KO annoncé par l'UNIR, l'Union pour la République, a été confirmé par les résultats publiés hier soir par la CENI. Le président sortant Fornia Singbe est réélu dès le premier tour avec 72,36% des suffrages exprimés. Tiambakou Ayassor, président de la CENI.
Ainsi donc, au vu de tous les résultats centralisés sur la base des procès-verbaux obtenus des commissions électorales locales indépendantes, les CENI et des commissions électorales d'ambassades indépendantes, les CAI, le candidat du parti Union pour la République UNIR, M. Nyasingbe Sozimna Faure, est proclamé provisoirement élu président de la République Togolaise.
L'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo n'a recueilli que 18,37% des suffrages selon ses résultats provisoires de la CENI. Peu avant la publication des résultats du scrutin, il s'est autoproclamé président élu, Agbeyome Kodjo.
Nous avons gagné cette élection présidentielle du 22 février 2020 au premier tour avec un score oscillant entre 57 et 61%. Dès l'instant, je deviens le président démocratiquement élu et je m'engage à former un gouvernement inclusif.
L'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, n'a obtenu que 4,35% des voix. Le taux de participation est de 76,63%. C'est pour la première fois dans l'histoire du Togo que la diaspora a pu exprimer son droit de vote. Irénée Herman Ungbo, Lomé, VOA Afrique.
Et nous retrouverons notre envoyé spécial en seconde partie de cette édition.
Au Mali, au moins 4 soldats ont été tués et 8 autres blessés hier lors de l'attaque d'un camp de l'armée dans la région de Tombouctou, dans le nord du pays. Claire Morin-Gibourg.
C'est sur Twitter que l'armée malienne a confirmé l'attaque par de présumés djihadistes du poste de Bambara Maoudé à une centaine de kilomètres au sud de Tombouctou. Les blessés ont été héliportés sur Sévaré. Avec l'intervention de l'aviation malienne appuyée par Barkhane et la MINUSMA, le poste est sous contrôle, a pour sa part déclaré toujours sur Twitter le ministre de la Communication Yaya Sangaré. Selon un élu local, les terroristes sont partis avec des véhicules et du matériel militaire, mais aussi avec des corps de leurs camarades tués. Le bilan du côté des assaillants n'est pas connu, selon le colonel Boubacar Sanogo, commandant de la région militaire de Tombouctou, où un bataillon de l'armée malienne reconstitué a pris ses quartiers il y a quelques jours. La force française Barkhane vient d'annoncer son passage de 4500 à 5100 hommes d'ici à fin février, dans l'espoir d'inverser le rapport de force sur le terrain, alors que les groupes djihadistes multiplient depuis quelques mois les attaques au Sahel.
Au Cameroun, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, a déclaré hier que le gouvernement entend rester maître de son destin. Il réagissait à la promesse du président français Emmanuel Macron de faire pression sur son homologue Paul Biya et à sa dénonciation, je cite, « des violations des droits de l'homme intolérables dans ce pays ». M. Macron avait été interpellé samedi à Paris par un activiste camerounais qui l'exhortait à condamner des violences attribuées à l'armée camerounaise dans l'ouest anglophone de son pays.
Le 14 février, selon l'ONU, 23 personnes, dont une majorité d'enfants, sont mortes au cours d'une opération militaire dans le village de Ntumbo, dans le nord-ouest du Cameroun. Selon Yaoundé, un affrontement à Ntumbo entre l'armée et des séparatistes a provoqué un incendie qui a entraîné la mort de 5 victimes, une femme et 4 enfants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le bilan de l'épidémie de pneumonie a atteint lundi 2592 morts en Chine continentale après l'annonce de 150 décès supplémentaires, tous sauf un dans la province centrale du Hubei, berceau du nouveau coronavirus, ont annoncé les autorités sanitaires. Ces chiffres témoignent d'une aggravation après les 97 nouveaux décès annoncés dimanche. La Commission nationale de la santé a par ailleurs fait état de 409 nouveaux cas confirmés de contamination sur 24 heures, la plupart au Hubei, ce qui porte à plus de 77 000 le nombre de personnes infectées dans le pays.
Considéré par Pékin comme sa plus grande urgence sanitaire depuis 1949, le nouveau coronavirus a forcé hier la Corée du Sud à proclamer l'état d'alerte maximum, l'Italie à mettre des villes en quarantaine et plusieurs pays à fermer leurs frontières. De nouveau, Claire Morin-Gibourg.
Avec 602 cas de contamination et 6 décès, la Corée du Sud compte le plus grand nombre de malades sur son sol après la Chine. Face à cette propagation rapide, le président sud-coréen Moon Jae-in a relevé au plus haut le niveau d'alerte. Selon lui, l'épidémie de Covid-19 est à un tournant décisif. Les prochains jours seront cruciaux. C'est la plus grave urgence sanitaire depuis 1949, a déclaré le président chinois Xi Jinping, tout en reconnaissant des lacunes dans la réponse à l'épidémie. La multiplication des cas en Iran, 43 au total dont 8 décès, inquiète l'Arménie, la Turquie, la Jordanie, le Pakistan et l'Afghanistan qui ont fermé leurs frontières ou restreint les échanges avec ce pays. En Europe, avec 149 cas et 3 décès, les autorités italiennes ont confiné 52 000 personnes en Lombardie et en Vénétie, dans le nord du pays. C'est une première en Europe. Lors d'une réunion du G20 en Arabie Saoudite, la directrice du Fonds monétaire international a estimé que le virus Covid-19 a perturbé l'activité économique en Chine et pourrait mettre en péril la reprise de l'économie mondiale.
Le groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique a confirmé hier le décès de son chef, 2 semaines après l'annonce par Washington de sa mort dans une frappe de drone américaine au Yémen. Jean-Roger Bion.
La mort de Qassem al-Rimi, chef de l'AGPA, a été confirmée dans un discours d'un de ses responsables religieux, selon un communiqué de SITE, le centre américain de surveillance des sites islamistes. Son adjoint et porte-parole du groupe, Khaled Ben Omar Batarfi, lui succède. Le président américain Donald Trump avait annoncé le 6 février que les États-Unis avaient éliminé Qassem al-Rimi quelques jours après la revendication par le groupe djihadiste d'une fusillade perpétrée début décembre dans la base aéronavale américaine de Pensacola, en Floride. 3 marins américains avaient été tués par un sous-lieutenant de l'armée de l'air saoudienne dans cette attaque. Washington considère AGPA, basée au Yémen, comme la branche la plus dangereuse du réseau djihadiste. Depuis l'entrée en fonction de Donald Trump en 2017, les États-Unis ont intensifié les attaques contre le groupe.
Le président Trump a déclaré hier que la trêve partielle de 7 jours avec les talibans tient en Afghanistan et qu'elle pourrait éventuellement mener à la signature d'un accord de paix prévu cette semaine avec ce groupe d'insurgés. Cette trêve, appelée réduction de la violence, a commencé samedi à travers l'Afghanistan où la guerre dure depuis 18 ans maintenant.
Monsieur Trump parlait hier avant de se rendre en Inde où il est arrivé aujourd'hui pour une visite d'État de 2 jours avec au programme un meeting géant aux côtés du Premier ministre indien Narendra Modi, puis une escapade au Taj Mahal. La réception de M. Trump commencera par un roadshow de plusieurs kilomètres dans Ahmedabad, itinéraire jalonné d'affiches et d'estrades où des acteurs joueront des scènes célébrant la diversité de l'Inde.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Bagassi Koura.
Le gouvernement congolais a autorisé le redémarrage en République démocratique du Congo du premier réacteur nucléaire installé en Afrique subsaharienne à l'arrêt depuis 1994, selon un compte rendu du Conseil des ministres de jeudi dernier. Ce réacteur expérimental du Centre régional de recherche nucléaire de Kinshasa est installé près de l'université dans la capitale congolaise. Ce centre a en théorie pour mission de mener des recherches médicales, biologiques, génétiques et industrielles. Ce réacteur a été installé en mars 1973, mais ne fonctionne plus depuis 1994, faute de moyens. Le conseil d'administration de Inouï, le troisième opérateur marocain, a décidé de retirer la plainte qu'elle avait déposée en 2018 au tribunal de commerce de Rabat contre Maroc Télécom. Jeune Afrique qui rapporte l'information précise que ce choix intervient après que le régulateur a sanctionné lourdement fin janvier ce dernier pour abus de position dominante. Et puis l'Organisation mondiale du tourisme veut aider l'Afrique à rattraper son retard sur l'industrie touristique mondiale. Elle organise à cet effet depuis jeudi à Abidjan un forum mondial sur l'investissement touristique en Afrique, rapporte Financial Afrique. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées des touristes internationaux ont enregistré une croissance soutenue de 4,2% sur la décennie 2008-2018, atteignant le chiffre record de 1403 milliards d'arrivées en 2018, ce qui a généré des recettes estimées à plus de 1342 milliards de dollars américains.
Les sports à présent avec Emmanuel Julta pour notre correspondant à Yaoundé. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le football africain en deuil, l'ex-secrétaire général de la Confédération africaine de football est décédé hier.
L'Égyptien Amrou Fahmy est mort à l'âge de 36 ans, gravement malade depuis plusieurs mois. Amrou Fahmy avait été licencié en avril 2019 pour faute professionnelle. L'on se souvient qu'il avait adressé une correspondance à la FIFA dans laquelle il dénonçait entre autres la corruption au sein de l'instance fêtière du football africain. Il s'était lancé dans la course à la présidence de la Confédération africaine de football pour 2021. Dans un bref communiqué posté sur son site officiel, la CAF a annoncé avoir, citation, appris avec beaucoup de tristesse et d'affliction la nouvelle du décès, fin de citation, de son ancien secrétaire général. Amrou Fahmy était d'une lignée de dirigeants de football africain. Son père et son grand-père avaient également été secrétaire général de la CAF.
Un mot sur le football féminin. Avec le sacre du Maroc hier à Tunis au tournoi de l'Union Nord-Africaine de football.
Oui, la sélection nationale féminine de football du Maroc a remporté avec la manière le trophée. Elle a battu son homologue de l'Algérie 2-0. Un parcours sans faute pour l'équipe marocaine au terme de 5 journées de compétition sous la formule de championnat. La compétition a réuni du 13 au 25 février 5 équipes du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. La Mauritanie et la Tanzanie ont remplacé l'Égypte et la Libye qui avaient décliné l'invitation. Le tournoi de dames seniors de l'Union nord-africaine de football s'est disputé pour la première fois en 2009.
Emmanuel, des matchs reportés ce week-end en Serie A, le championnat de première division en Italie à cause du coronavirus.
4 matchs de la 25e journée programmés samedi et dimanche ont été reportés en Serie A, soit près de la moitié de 7 journées du fait de la progression du coronavirus en Italie, où l'on a enregistré déjà 132 cas, dont 2 décès, selon les autorités. Hormis le football, le comité olympique italien avait demandé le report ce dimanche de toutes les compétitions dans les régions de Lombardie et Vénétie, où sont recensées la majorité des nouvelles contaminations.
Football toujours en Angleterre, Arsenal et son buteur Aubameyang en regain de forme.
Oui, Idrissa, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a signé hier un doublé face à Everton. Arsenal enchaîne ainsi pour la première fois 2 victoires de rang en championnat cette saison. Score final, Arsenal 3, Everton 2. Les Gunners et Yves désormais 9e au classement. Allez, Idrissa, les résultats de cette nuit en NBA pour terminer.
LA Lakers et Boston, de justesse, 114 à 112. Toronto et Indiana, un massacre, 127 à 81. Denver et Minnesota, 128 à 116. Oklahoma City et San Antonio, un autre massacre, 131 à 103. La Nouvelle-Orléans et Golden State Warriors, 115 à 101. Portland et Détroit, 107 à 104. Chicago et Washington, 126 à 117.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Togo donc, selon les résultats officiels provisoires proclamés dans la nuit de dimanche à lundi par la Commission électorale nationale indépendante, le président Faure Gnassingbé a été reconduit pour un nouveau mandat à la tête du pays. Un peu avant cette publication, le candidat arrivé deuxième lors du scrutin de samedi s'est autoproclamé président élu, suscitant ainsi confusion et inquiétude. De nouveau, notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Umbo.
La Commission électorale nationale indépendante CENI a déclaré vainqueur de la présidentielle du 22 février le candidat de l'Union pour la République, le président sortant Faure Gnassingbé, devant l'ancien Premier ministre Agbeyome Kodjo qui, lui, s'est autoproclamé président élu, une situation qui inquiète déjà certains observateurs de la vie politique au Togo. Narcisse Prince-Agbodjo est journaliste.
Nous sommes encore plus dans une période sensible. C'est une période beaucoup plus de revendications. C'est une période aussi où les politiques stimule la population à de violence. Notre souhait, c'est que tout se passe bien.
Jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la CENI, tout le processus électoral s'est déroulé sans incident majeur, va faire remarquer Narcisse Prince-Agbodjo avant d'insister sur ce qui préoccupe le plus l'ensemble des citoyens togolais.
Les Togolais sont plus inquiets par rapport à leur panier de la ménagère. Tout notre souhait, c'est que chacun puisse vaquer à ses occupations après les élections et vivement que les politiques puissent comprendre que le Togo puisse avancer, que tous on se rappelle que nous sommes tous Togolais, que l'important c'est de véritablement travailler en communion pour le développement de notre cher pays, le Togo.
Occasion pour le commissaire aux affaires politiques à la Commission paix et sécurité de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest d'insister sur la notion de paix que doivent s'approprier les différents acteurs politiques du Togo. Général Francis Béanza.
Vous savez, l'évolution sociopolitique de nos différents pays, remarquable sur le plan de la nécessité d'avoir la paix autour et avec tous les acteurs politiques. Pour le Togo, de façon particulière, il faut vous dire que nous sommes partis de très loin. Vous vous rappelez les événements de 2017, les événements de 2018, jusqu'à l'élection législative de 2018. Ensuite, après l'élection législative, il y a eu l'élection locale, les élections locales. Et à ces élections locales, c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons constaté au niveau de la région que tous les acteurs politiques ont participé à cette élection locale. C'est signe que la tolérance prend le dessus sur des clivages politiques peut-être utiles, parfois inutiles, mais ce qui doit compter pour le peuple togolais, c'est de se retrouver pour aller à un développement qui permette à toute la population de se retrouver comme citoyen togolais.
Irénée Herman Umbo, Lomé, VOA Afrique.
Le premier ministre malien, Boubou Cissé, s'est rendu ce week-end au chevet des victimes de l'attaque d'Ogossagou et Sendégué, dans le centre du pays, où des civils ont été tués récemment par des hommes armés. Les populations ont exprimé à l'occasion de cette visite leur désir d'être dans des localités plus sécurisées. Et le premier ministre Cissé en a profité pour expliquer l'opération Maliko qui vise à ramener la sécurité dans la région. Le point avec notre correspondant Kassim Traoré.
Sendegé est à 30 minutes de vol d'oiseaux de Mopti, la grande ville du centre. Il est l'un des 9 villages que compose Gouroube Doudé, cercle de Mopti. Abdoulaye Ba, de la jeunesse de Sendegé.
La commune de Sendegé, donc nous souhaitons que la paix revienne au Mali. La préoccupation, c'est d'abord c'est la sécurité. Il faut que la sécurité règne dans toute la commune entière. Il faut réinstaurer les structures qui sont perdues, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire les structures administratives, c'est-à-dire la santé et le confort.
L'étape de Ogosavu a commencé par le recueillement sur les tombes des 50 victimes du 27 février dernier. Bourema Bari, porte-parole des populations de Ogosavu.
Ils disent qu'il y a 20 personnes portées disparues qu'ils n'ont pas vues de leurs yeux. Ils ne savent pas qu'ils vivent, ils ne savent pas là où. Il y a une famille, on a tué 3 de ses enfants. Qu'on lui donne du lait ou qu'on lui donne du sucre, qu'on lui donne à manger. Tout ça, ça ne peut pas rentrer dans sa tête si on ne l'amène pas pour là où elle peut être sécurisée parce qu'elle est carrément traumatisée. Quelques militaires restent ici seulement. On ne peut pas avoir confiance. Ils ont besoin d'un camp.
Pour la population de Ogosavu, le carnage du 7 février dernier était évitable. Si l'État avait respecté ses engagements de sécurisation de leur village.
Il dit qu'ils sont 3 personnes qui ont dit aux gens de ne pas quitter. Parce que comme le président les a rassurés, il faut qu'ils restent. Maintenant, tout ceci, chacun vient les voir, il pleure, il dit que c'est toi qui as tué mon enfant parce que si on n'était pas là. Ils sont même les propres épouse, leurs enfants. Ils ne peuvent même plus les parler parce qu'ils disent que tout ce qui est arrivé, c'est grâce à cause de vous qu'ils nous ont demandé de rester. Donc, ils ont demandé tout ce que vous pouvez faire, c'est de les trouver les moyens pour te dépasser, pour aller vraiment se sécuriser.
Face aux populations meurtries, le Premier ministre a tenté de les rassurer. Boubou Cissé.
Le vivre ensemble est un choix des individus. Il faut que ce choix-là soit celui de la communauté Peul et de la communauté d'Orono, habitués à vivre ensemble dans l'harmonie et dans la complémentarité. Le bon message, c'était de leur dire certes, je suis venu faire part de la déception, de la tristesse, des sentiments qui sont les nôtres aujourd'hui en tant que gouvernement, mais en même temps dire qu'il n'y aura pas de crime à l'impunité qui sera donnée ici par rapport à ce qui s'est passé à Ogosavu. Les enquêtes sont en cours, elles vont continuer et les instructions aussi vont être diligentées.
Lors de cette tournée, le Premier ministre malien s'est arrêté devant les checkpoints tenus par des civils armés. Il s'est dit surpris.
Ça fait quelques mois, certaines populations interpellent le gouvernement en nous disant qu'il y a des checkpoints sur la route et malheureusement parfois avec la complicité de certains acteurs de l'État. Cela avait toujours été nié par ces acteurs et je l'ai vu aujourd'hui moi-même. Il est inadmissible que ces checkpoints-là soient sur la route que nous venons d'emprunter entre Sévaré et Bankas. L'instruction a été donnée au commandement militaire, au gouverneur, pour que dans les meilleurs délais, ces checkpoints puissent être levés.
Pour rassurer la population, le Premier ministre a expliqué les contours de l'opération Maliko récemment annoncée par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Elle vise, selon les autorités, le renforcement de la sécurité dans les zones de conflit et leur développement avec le retour des services sociaux de base. Mopti, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Bénin, selon notre correspondante sur place, c'est dur d'être femme dans les médias. Celles qui excellent dans le domaine se heurtent à beaucoup de difficultés, dont la plupart tournent autour des préjugés hérités de la tradition. Confinées au sein des rédactions généralement dans des rôles secondaires, elles ne baissent pas les bras pour autant. De Cotonou, Ginette Fleur à Dandé.
Être une femme travaillant dans les médias au Bénin est un parcours de combattant, une épreuve de force. Si vous n'êtes pas assez forte mentalement, les critiques venant de part et d'autre suffisent à vous faire renoncer. Mais le plus choquant reste le regard que portent les hommes du métier sur leurs consoeurs. Pour bon nombre de ses confrères rencontrés, les femmes n'ont pas leur place dans une rédaction.
La femme journaliste, c'est très intéressant. Mais parce que je suis journaliste et très mobile, je me demande si ma femme est très mobile. Qu'est-ce qui se passera et qu'est-ce que je puis faire demain?
Non, jamais. Parce que je ne veux pas. Parce que je suis dans le métier, je connais les contraintes, je connais les risques de ce métier-là.
Moi, je voudrais que mes enfants soient bien éduqués. Étant déjà dit que moi-même, je ne suis pas prêt à être là. Si je m'en vais prendre encore une épouse professionnelle des médias, c'est pratiquement la catastrophe au foyer.
Par rapport au métier, les préjugés sont encore plus forts sur le rôle de la femme journaliste. Vincent Audio est un opérateur économique. Pour lui, au Bénin, les femmes journalistes sont utilisées à des fins dessein commercial par les patrons de presse qui se servent d'elles pour renflouer leur caisse.
Très souvent, elles n'ont pas le temps, elles ne sont pas à la maison, elles désertent le foyer. Alors, en réalité, la femme devait rester beaucoup plus à la maison, s'occuper des enfants. Les femmes journalistes ont tendance à beaucoup plus devenir infidèles parce qu'elles sont beaucoup plus tentées par les avances pour ce qui concerne leur métier et puis eu égard à tout ça. Donc, on préfère ne vraiment pas choisir les femmes journalistes comme épouses.
En dehors de ce regard que porte la société sur les femmes journalistes, il y a la lutte quotidienne que doivent mener celles-ci pour se faire respecter au sein des rédactions dans une société où la femme est considérée comme celle qui doit se soumettre. Senalea Glago est rédactrice en chef d'une radio privée de Cotonou. Elle doit, dit-elle, se battre chaque jour pour se faire entendre.
Et ce n'est pas facile déjà pour les hommes de se faire accepter par toute une rédaction composée d'hommes et de femmes. Et ça l'est encore moins pour des femmes, mais on gère que les hommes déjà ont du mal à accepter des femmes journalistes, des femmes dans le métier, parce qu'on s'est fait des stéréotypes, on s'est fait des clichés, et on s'est dit qu'une femme dans ce monde-là, c'est une femme débauchée. C'est des situations qui conduisent à cela.
Ghislaine Adimi est présentatrice à la télévision nationale. Elle pense que les patrons de presse doivent cesser de reléguer les femmes dans des rôles insignifiants sous prétexte qu'elles n'ont ni la force ni l'intelligence nécessaire pour être au devant de la scène.
Le défi entre nous, acteurs des médias, hommes et femmes, c'est qu'on nous met, nous les femmes, là, comme des parades. Et c'est aux hommes qu'on confie beaucoup plus des missions. C'est, non, toi, la femme, on dit tu es exposée, tu ne pourras pas te défendre. Alors qu'on aimerait bien aussi aller au charbon. On aimerait bien aussi faire ce que les hommes font et nous défendre autrement. Laissez-nous nous défendre. Laissez-nous à l'épreuve professionnelle parce qu'on est venu pour travailler. Donc c'est beaucoup de problèmes pour la femme professionnelle des médias qu'on ne pourra vraiment pas exprimer parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, il n'y a même pas le mot, le vocabulaire pour le dire.
Les femmes journalistes ont compris il y a quelques années que l'amélioration de leurs conditions de travail et le respect de leurs compétences intellectuelles ne viendront que d'elles-mêmes. C'est ainsi que la cellule des femmes professionnelles des médias a vu le jour et se bat avec force pour que les femmes soient valorisées et leur potentialité reconnue. Mais le chemin paraît bien long et parsemé d'embûches. De Cotonou, Zinette Fleuadandé pour VOA Afrique.
American Corner étant ses racines en Afrique, ces espaces offrent des conseils éducatifs à ceux qui veulent étudier aux États-Unis, des ateliers sur divers sujets allant du développement des compétences professionnelles à l'apprentissage de l'anglais. Reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Au programme des activités de l'American Corner de Libreville, l'apprentissage de l'anglais. Nous sommes conviés à un exercice d'entretien à bâton rompu entre les encadreurs et leurs élèves du jour. La simulation porte sur la conjugaison et les règles élémentaires de grammaire. Raoul Obam, enseignant certifié d'anglais, fait partie des bénévoles du centre.
Ce qui est bien de faire, c'est la nouvelle approche qui consiste donc à enseigner la grammaire, mais dans un contexte donné. Donc il n'est pas question de venir aujourd'hui, on dit aujourd'hui on va voir, par exemple, le simple present. Mais il faut un contexte.
Le public ici est varié. On y trouve aussi bien des élèves, des étudiants que des professionnels. C'est le cas de Julie Mavumbu, fonctionnaire au ministère gabonais de l'Éducation nationale.
J'ai passé les tests, puis en fonction des résultats du test, je suis allé, on va dire, le fait droit.
Le centre est équipé d'ouvrages de référence, de périodiques ainsi que d'une importante collection de livres promouvant les cultures gabonaises et américaines. Il dispose également d'Internet qui permet ainsi à ses visiteurs d'accéder à des informations de partout. Ce confort arrange visiblement Gandou Issa, responsable d'un cabinet international de thérapie ortho-moléculaire à Libreville.
Je suis partenaire d'une société de pharmacie étrangère ici au Gabon, dont les travailleurs sont des anglophones. Donc moi, en tant que Gabonais, j'ai toujours eu la difficulté de dialoguer avec eux, de travailler avec eux.
Bien qu'étant un lieu d'études et de réflexion, l'American Corner se veut aussi un espace de convivialité, de partage d'expériences, de découvertes et de connaissances. Robin Holzauer et conseiller culturel à l'ambassade des États-Unis à Libreville.
Nous avons beaucoup de cours ici. Les gens peuvent venir gratuitement pour apprendre l'anglais. Les gens peuvent venir voir des films en français ou en anglais. C'est vraiment un endroit où vous pouvez échanger des idées, vous renseigner, développer votre réseau professionnel. professionnelle. Nous organisons des ateliers sur les compétences professionnelles en art oratoire ou en leadership.
L'American Corner de Libreville porte le nom de John Lewis et son inauguration par l'ambassade des États-Unis au Gabon date du 15 janvier 2016, date anniversaire de la naissance de Martin Luther King. John Lewis est un homme politique américain, fervent défenseur de la philosophie de non-violence et un des plus grands leaders du mouvement des droits civiques. Libreville, Ismaël Obianzé, VO Afrique.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Calvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. Thank you.